Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Je suis Louis XVII.
Et moi, Napoléon.
RTL. En 1795, le dauphin de France est déclaré mort à la prison du Temple. Pourtant, l'homme affirmera toute sa vie être ce Louis XVII, héritier des Bourbons.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez, vous l'avez compris, on va s'intéresser à l'une des plus grandes énigmes de l'histoire de France, celle de Louis XVII.
Oui, Louis XVII, c'est le fils évidemment de Louis XVI et Marie-Antoinette, une histoire incroyable d'un petit bonhomme qui est soi-disant bel et bien mort, et pourtant pendant des dizaines d'années, on s'est demandé s'il n'était pas mort, s'il n'était pas réapparu sous la chair de d'autres personnages. C'est une histoire absolument passionnante que l'on va raconter avec nos invités, l'historienne Clémentine Portier-Kattenbach. Vous allez bien? Je vais écorcher gravement votre nom
grave,
de famille.
Pourtant,
on se connaît depuis des années. Mais Clémentine, ça va très bien. Et vous êtes accompagnée de votre ami et de l'écrivain Jean-Louis Bachelet, qu'on a déjà reçu à ce micro. Bonjour Jean-Louis. Bonsoir, vous allez bien?
Bonsoir. Et ça
vous,
va et vous?
Vous publiez, ça va super
on est en
bien.
Forme.
On s'est régalé avec votre livre Sang Royal aux éditions Ring. Alors, on va poser un peu le décor. On est en pleine Révolution française. En septembre 1792, la monarchie est abolie par la Convention. Et là, Louis XVI et sa famille sont emprisonnés. Parmi eux, il y a le dauphin, le fameux Louis XVII qu'on appelle l'enfant du Temple. Pourquoi on le surnomme comme ça?
Bon, à l'époque, on ne l'a pas appelé l'enfant
oui,
du Temple.
C'est plus tard,
c'est a posteriori.
Évidemment.
Le pauvre garçon a eu une vie tellement courte que, et sa période de captivité a été tellement longue, eu égard à son âge, qu'on a nécessairement pensé. Mais quand il est entré dans la prison du Temple, il avait 7 ans. Et il y est resté jusqu'en 1795, il y est resté 3 ans. Donc très rapidement, la tradition populaire a associé le destin de cet enfant au lieu dans lequel il a souffert et dans lequel il est mort.
Qui s'appelle donc la prison du Temple.
La prison du Temple.
Donc c'est l'enfant du Temple.
C'était quoi les conditions de détention pour cette famille royale dans la prison du Temple?
Alors au départ, la prison du Temple est un bâtiment très ancien, hein, qui date des Templiers justement, qui était une véritable forteresse, qui, depuis un certain temps, servait de prison d'État. Je pense que Clémentine va pouvoir me apporter des précisions relatives à la transformation de ce château des Templiers en prison d'État. Mais en tout cas, c'était une véritable forteresse et il est certain qu'on ne pouvait pas en sortir. Donc, du coup, lorsqu'on a enfermé la famille royale là, on avait un endroit idéal en plein cœur de Paris, enfin un petit peu aux normes pour l'époque en plein cœur de Paris, et un endroit qu'on pouvait surveiller d'une façon drastique.
Alors, avec un mur d'enceinte et une cloison intérieure qui a été bâtie en cours de captivité, mais dans un premier temps, les conditions de vie ne sont pas si mauvaises, parce que il suffit pour en juger d'aller au musée Carnavalet, où on a reconstitué la prison, la chambre de Marie-Antoinette à la prison du Temple. Et alors, là où à la conciergerie sont vraiment des conditions très très frustres, au Temple, il y a encore un peu de mobilier, on s'imagine rentrer dans un cachot de la Bastille, ça n'est pas le cas.
Vous parlez de la cellule de Marie-Antoinette, ça veut dire que Louis XVII n'est pas avec ses parents, Louis XVI et Marie-Antoinette?
Mais ils sont à des étages différents dans la tour du Temple.
Ils ont commencé par être enfermés dans la petite tour carrée attenante à la grande tour, qui était configurée, aménagée en tout cas de la même façon. Et ils avaient dans les premiers temps la possibilité de se voir, de sortir pour jouer dans le petit jardin qui était en face. Ils avaient la possibilité de communiquer naturellement. Et c'est simplement lorsque Louis XVI a été guillotiné qu'ensuite on a séparé l'enfant de sa mère, dans des conditions qui ont rendu sa vie tragique et impossible.
Et que on va la raconter, c'est une famille sous haute surveillance quand ils sont tous ensemble.
Est-ce qu'on avait peur qu'il s'échappe, tiens?
De toute façon, il n'y avait pas que ça. Je crois que quand on voit la tradition, le lien très fort qui existe entre les Français et la royauté depuis très très longtemps, il faut comprendre que la Révolution craignait par-dessus tout que cette famille royale puisse d'une part s'échapper et surtout qu'on puisse avoir accès à elle. Ce qui était le cas quand la famille royale était aux Tuileries. À un moment d'ailleurs, Clémentine pourra vous le raconter mieux que moi, mais lorsque la famille royale a été déplacée aux Tuileries, c'était un véritable zoo. C'est-à-dire que lorsqu'ils sortaient dehors, tout le monde pouvait contempler cette famille royale comme on va contempler des animaux dans un...
Ça se passait comment, Clémentine?
Bien sûr, parce qu'il faut imaginer ce que c'est tout d'un coup de pouvoir être dans la proximité du roi. C'est quelque chose d'extraordinaire qui d'ailleurs n'était pas si nouveau, parce que de toute éternité, on pouvait à Versailles, même à l'époque de Louis XIV, à l'entrée, on vous donnait un chapeau et vous aviez le droit de rentrer. Dans... C'est-à-dire que il y a ce paradoxe de la personnalité du roi qui est à la fois désignée par Dieu et donc CEO au-dessus du bas peuple et en même temps qui doit être accessible parce qu'il est aussi une création de Dieu, son représentant sur Terre et que donc il se doit à ses sujets. Mais effectivement, aux Tuileries, les Parisiens viennent se balader autour du château et coller leur visage à la vitre si c'est possible et voir le roi, voir la reine. C'est comme si vous et moi, vous croyez pas qu'on vous dirait allez coller vos yeux, votre nez sur les fenêtres de l'Élysée pendant ou à l'Ambroisie pendant qu'Obama.
Il y a les paparazzi qui font ça pour nous.
Idine, moi je demanderais pas mieux personnellement.
Alors retournons à la prison du Temple où quand même il faut le rappeler, un petit garçon de 7 ans, Louis XVII, est enfermé, est en prison avec son père Louis XVI et sa mère Marie-Antoinette. C'est quel genre de petit garçon ? Précoce ? J'ai même lu qu'il avait un peu d'humour dans votre livre.
C'est un garçon qui surtout a bénéficié d'une éducation royale, bien entendu, mais surtout de l'éducation de Louis XVI, son père, qui est un homme qui est à la fois extrêmement cultivé et qui est très sensible aux idées nouvelles. On est très impressionné de voir dans les carnets du jeune Louis XVI, dès l'âge de 12 ans, des mentions qui font état, dès le départ, du contenu de la Déclaration des droits de l'homme. Louis XVI a été éduqué dans l'idée que il n'a pas des sujets, mais en quelque sorte des enfants, qu'il est le père de son peuple. Et ça, c'est aussi une forme d'avènement d'une nouvelle forme de royauté en France.
Et qu'est-ce que ça donne à son fils ? Alors, qu'est-ce qu'il lègue à son fils dans son éducation ?
Il lègue à son fils des devoirs emprunts d'un christianisme actif. Il lui apprend à pardonner à ses ennemis. Il lui apprend à aimer son peuple.
Ça va être important pour la suite de l'histoire.
C'est très impressionnant de voir qu'il a toujours eu à cœur de transmettre à ses enfants, pas seulement à son fils, mais cet esprit de charité et d'amour qui n'était pas forcément ce qu'on transmettait en priorité à ses enfants à l'époque, par exemple, de Louis XIV.
Clémentine,
puis il y a une chose qu'il faut voir aussi, je pense, c'est que Louis XVI et Marie-Antoinette sont des parents très modernes, qui consacrent beaucoup de temps à leurs enfants, ce qui n'est pas la loi du genre dans l'aristocratie à l'époque. Mmh. Il faut voir également que ce sont des parents qui ont perdu des enfants, ils ont perdu une petite fille en très bas âge, mais le premier dauphin meurt en juin 89. C'est-à-dire, il faut s'imaginer, on est à un mois de la prise de la Bastille, et Louis XVI et Marie-Antoinette perdent leur fils aîné. Donc ils sont dans un nœud de douleur épouvantable et c'est là qu'il faut organiser les états généraux et c'est là que couvre la révolution. Donc on a des parents tellement aimants pour leurs enfants qui sont beaucoup investis dans ces enfants, chose tout à fait nouvelle, et qui perdent leur fils aîné alors même qu'il faudrait concentrer tous leurs efforts pour faire face à cette révolution qui s'annonce.
Et puis Louis XVI va être exécuté, évidemment ça va complètement bouleverser le destin du futur Louis XVII. À tout de suite dans La Curiosité.
La curiosité est un vilain défaut.
C'est une polémique vieille de 200 ans, l'un des plus grands mystères de l'histoire, celui de Carnoundorf.
RTL.
Enfermé au temple à 7 ans avec ses parents, Louis XVII est ensuite gardé par le couple Simon.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Avec nos invités, l'historienne Clémentine Portier-Kaltenbach et l'écrivain Jean-Louis Bachelet, on vous raconte tout simplement la plus grande énigme de l'histoire de France, c'est celle de Louis XVII, le fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Louis XVI a donc été exécuté. Qu'est-ce qu'il advient du dauphin ?
Alors, selon la loi, il devient roi. Que le roi est mort, son fils est immédiatement proclamé roi.
Donc il est reconnu par des royautés européennes.
Il est reconnu par le comte de Provence, qui est le futur.
En dehors des frontières, alors ça lui fait une belle jambe, le malheur.
Ben oui.
Pour lui, la royauté, ça ne doit pas correspondre à grand chose. Son père lui fait des adieux déchirants, mais enfin, que peut comprendre un petit garçon de 8 ans quand son père l'embrasse ? Que peut-il comprendre de la mort ? Que peut-il comprendre de la royauté alors que lui-même est enfermé entre quatre murs, qu'il ne peut pas ne pas avoir perçu et vécu la différence de traitement entre cette maison extraordinaire et pléthorique qu'il avait à Versailles, où on était aux petits soins pour lui. lui. Et là, son enfermement entre quatre murs avec des gens qui rudoient ses parents, qui les insultent, qui les regardent comme des singes savants. Donc oui, il se sait probablement roi, je suppose, mais une royauté qui est faite de mauvais traitements et de souffrances.
Est-ce qu'il va avoir le temps de se mettre dans la peau d'un roi ?
De toute façon, pour ajouter un petit peu un complément à ce que dit Clémentine, je pense qu'il se sent d'autant plus investi d'une mission particulière que son père et sa mère ont gardé une attitude d'une dignité extraordinaire face à leurs persécuteurs jusqu'au bout. Louis XVI aura toujours un mot gentil, y compris pour ceux qui le brutalisent.
Donc pour ses geôliers ?
Comment ? Oui.
Pour ses geôliers ?
Ah oui, ouais. Toujours. Il aura jusqu'au dernier moment de la hauteur. Et en même temps, des mots gentils pour telle ou telle personne qui leur a pu redoyer.
C'est comme si vous aviez un peu envie de réhabiliter Louis XVI, Jean-Louis Bachelet. C'est important ?
Mais je ne crois pas qu'il s'agisse de réhabilitation, mais tout à l'heure, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Vous avez dit qu'on avait appris à l'école un petit peu cette histoire-là et qu'on, dans notre imaginaire, toutes ces histoires de rois sont des symboles.
Oui, ils sont désincarnés, décharnés.
Voilà.
Oui,
bien sûr. La réalité est bien différente. On a affaire, donc, bien entendu, à des êtres humains, mais pour ce qui concerne Louis XVI en particulier, on a affaire à un homme qui est profondément habité par un esprit de partage et d'amour. On oublie par exemple que lorsque il y a eu cette grande famine de l'hiver 1788-89, il a fait raser le bois de Vincennes pour distribuer le bois aux pauvres. Ça, on l'oublie, par exemple. Mmh. Donc, alors, il y a plein de petits détails comme ça, naturellement. On a tellement appris que, naturellement, avec l'héritage révolutionnaire, hein, que c'était un tyran, que c'était quelqu'un qui affamait son peuple. On est totalement à côté de la réalité.
Alors, il est vrai que Louis XVI, bien sûr, a été largement caricaturé dans nos manuels depuis la Révolution française. Et comme le disait Clémenceau disait « Oui, il y a eu les horreurs de la Révolution, mais la Révolution est un bloc. » C'est-à-dire, on prend tout, c'est à prendre ou à laisser. Et alors, mon ami Jean-Louis a certainement quelques sympathies monarchistes. Moi, je suis quand même assez plus républicaine, mesurée. Donc je pense. Et il faut aussi mesurer le fait que, à l'époque de des journées de 92, de l'installation de la famille royale au temple, il y a eu aussi la fuite à Varennes, etc. Mesurer l'angoisse dans laquelle sont tous ces révolutionnaires aussi, parce que les amis de la famille royale, il va y avoir la guerre contre la Prusse, il va y avoir Valmy, bon, mais la révolution se sent menacée. Et donc, malheureusement, le sort de la famille royale au temple, il se détériore de façon concomitante.
Et ça nous ramène au décès de Louis XVII, parce que même si c'est un roi qui ne règne sur rien, sur une cellule minuscule, c'est un symbole.
Bien
donc
sûr.
Forcément, il peut inquiéter justement les révolutionnaires.
Alors, moi, ce que je crois profondément, alors maintenant, je pense que mon ami Clémentine ne partagera pas du tout mon opinion, mais
Allez-y,
je crois très profondément que la persécution, l'enfermement et la mort programmée de Louis XVII a été décidé très très tôt. Je crois que cet enfant incarnait toute la monarchie française et l'idée même de monarchie. On ne guillotinait pas les enfants pendant la Révolution. C'est quelque chose qui ne se faisait pas. Donc on a décidé de le séquestrer, de le laisser se décomposer littéralement. Et ça a été quelque chose qui est apparu très très tôt dans les conciliabules de la Convention et de la Commune de Paris. Ça ne date pas de la période du cordonnier Simon en janvier 93.
C'était qui le cordonnier Simon, justement ? C'est un
alors, c'est
le précepteur, si j'ose dire.
Alors c'est là qu'on voit, Clémentine, tu vas peut-être ajouter quelque chose à ce que je viens de dire.
Non, mais je pense que oui, c'est tout à fait juste. Et vous voulez pourquoi quelques années plus tard, lorsque on a pensé pouvoir rétablir la monarchie, Henri V a refusé d'adhérer au drapeau français, il a déclaré « Ma personne n'est rien, mon principe est tout ». Eh bien, Louis XVI et Louis XVII, c'est pareil. D'ailleurs, Jean-Louis Bachelet le dit dans son livre, il cite Robespierre qui dit « Vous n'avez point une sentence à rendre pour ou contre un homme, mais une mesure de salut public à prendre, un acte de providence nationale à exercer. Je prononce à regret cette fatale vérité, mais Louis doit mourir parce qu'il faut que la patrie vive. » Et le petit Louis XVII, il devait mourir aussi parce qu'il fallait que la patrie vive.
Donc, alors, ce qui est paradoxal, c'est que Louis XVII doit mourir, sa mort est programmée, et à la fois, on le met dans les pattes de ce précepteur, c'est les révolutionnaires, en fait, en quelque sorte, qui confient l'éducation du jeune Louis XVII à ce précepteur, qui est un type sale, grossier.
Alors, c'est Denise qui est très intéressant.
Pourquoi est-ce qu'on sait qu'il va mourir ?
Alors, je crois que dans cette idée-là, il n'y avait pas seulement l'idée de se débarrasser. débarrasser du corps d'un enfant, mais d'exterminer en lui ce qui pouvait exprimer la plénitude.
Un lavage de cerveau.
Le cordonnier Simon est un type obscur, un garçon du peuple, pas forcément plus méchant que les autres, hein, il est assez commun, mais il a rencontré Mara, il a lié amitié avec Mara, et Mara très rapidement a vu en lui l'incarnation du principe révolutionnaire qui repose très tôt, dès la mi-1792. Cet idéal révolutionnaire est incarné dans l'homme du peuple par deux choses, par la haine de la royauté et par l'amour inconditionnel de l'idée du peuple. Et donc je crois que c'est très important de voir que chez le cordonnier Simon, il y avait cet idéal du peuple qu'il incarnait lui-même en tant que personne, et aussi une haine.
Et c'est ça qu'il est chargé de transmettre au jeune Louis XVII.
Est-ce que ça va si loin, Jean-Louis? Parce que moi, il me semble avoir lu quelque part qu'en fait, Chaumette désigne Simon parce que lui-même, Chaumette, était fils de cordonnier et que Simon est cordonnier. Et donc, ça l'amuse de montrer qu'un fils de roi peut être élevé par un cordonnier. En fait, il y a là une forme de provocation.
On se passe un pied de nez ou un lavage de cerveau.
Regardez, votre petit roi de France, on va en faire un petit sans-culotte.
Tu as tout à fait raison, Clémentine, mais Chaumette n'a pas été le seul à décider. Il fallait un certain nombre de voix pour la décision, et parmi ces voix, il y avait naturellement Chaumette et tout un ensemble de gens qui savaient pertinemment pourquoi le cordonnier Simon serait la personne capable de pouvoir débarrasser cet enfant de tout ce qu'il avait.
Ça va être affreux.
On va le raconter dans un instant.
Le destin de Louis XVII nous passionne. Restez avec nous sur RTL. C'est l'histoire des Royals qu'on vous raconte, et c'est ce que chante Lord tout de suite.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Le mystère Louis XVII, c'est ce qu'on vous raconte ce soir dans La Curiosité. C'était le fils de Louis XVI et Marie-Antoinette. Il a été enfermé avec ses parents à l'âge de 7 ans et il est mort à l'âge de 10 ans. On vous raconte ces trois terribles années. Pour en parler, l'historienne Clémentine Portier-Kaltenbach et le dramaturge écrivain Jean-Louis Bachelet. Louis XVI est exécuté. Louis XVII se retrouve entre les pattes d'une sorte de cordonnier Simon, qui est une sorte de précepteur qui va un peu lui nettoyer la tête. Qu'est-ce qu'il va lui faire concrètement à Louis XVII? Ça va être quoi son quotidien avec ce personnage?
Alors, il a pour but de le transformer en sans-culotte, tout simplement. Donc il va lui apprendre des chansons, tout simplement la Carmagnole qu'on entendait dans les rues de Paris.
Hein. Chanson révolutionnaire.
Ah, ça ira. Ouais. Il va lui apprendre ça. Il va lui inculquer l'idéal révolutionnaire. Il va lui faire comprendre qu'il est comme tout le monde. Il va l'affubler d'un bonnet phrygien. Il va le faire boire. Parce que derrière tout ça, il n'y a pas seulement une tentative pour déposséder l'enfant de toute son histoire intérieure. Il y a aussi un petit projet...
De le dégrader.
Et surtout, assez tôt, on a... le cordonnier Simon, avec Hébert, ont projeté de faire en sorte que l'enfant puisse accuser sa mère d'inceste. Et donc, ils vont pratiquer ce que les historiens ont appelé un emputinement, c'est-à-dire qu'ils vont lui donner des revues pour l'époque, des revues érotiques.
Ouais.
Ils vont vraisemblablement faire monter des filles dans sa chambre. Ça, je l'ai appris par Hilaire de Crémier, qui m'a informé sur cette...
Qui est-elle
qui va faire monter des gamines dans sa chambre.
C'est une historienne?
C'est un historien.
C'est un historien.
Voilà. Parce que là,
vous n'avez jamais entendu raconter cette histoire-là.
Ils vont de toute façon essayer de faire de lui l'enfant le plus dégradé de France.
Et ils vont le faire témoigner contre sa mère, c'est ça?
Qu'est-ce qui va se passer? Ça va donner lieu à une scène incroyable, un des grands moments de l'histoire de France et de cette histoire de la Révolution française, parce que Marie-Antoinette est donc accusée de s'être livrée à des horreurs avec son propre fils, et au cours de son procès, alors qu'elle est prête à tout, elle est déjà dans le renoncement, une sorte de marche vers son martyre et sa condamnation qu'elle sait fatale. Et quand elle est mise en cause de cette façon, elle a une sorte de mouvement d'indignation, mais extrêmement profond. Et elle s'indigne, elle s'adresse à la foule, elle dit j'en appelle à toutes les mères. Et comment une mère peut-elle penser que j'ai pu me livrer à des choses aussi affreuses sur mon fils? Et là, il y a un moment moment de silence et d'émotion dans le tribunal révolutionnaire, ce qui fait qu'à un moment, on est à deux doigts, ça a été très très bien raconté par Zweig dans sa Marie-Antoinette, on est à deux doigts d'exiger que le procès ne continue, ne se poursuive à huis clos, parce qu'on sent qu'il y a là une sorte de basculement.
Il y a une pression de la foule.
On a été quand même trop loin. Accuser Marie-Antoinette d'avoir tripoté son fils, c'est affreux. Et quand Jean-Louis raconte qu'effectivement il est manipulé, il y a un certain Daujon qui était commissaire de la commune qui entendra un jour le dauphin s'exclamer à propos de sa mère et de sa tante, est-ce que ces sacrés putains-là ne sont pas encore guillotinés? Voilà ce que ce petit garçon de 8 ans dit à propos de sa
Après
mère.
Après cet épisode, il va être séparé de sa mère, Louis XVII?
Tout à fait, on va l'arracher des bras de sa mère, ça sera une scène qui va durer près d'une heure, où Marie-Antoinette dira, vous me passez sur le corps mais vous ne me prenez pas mon fils, et finalement on lui fait comprendre que si elle n'accepte pas cette séparation, on va la tuer. Donc du coup, elle préfère être séparée plutôt que vivre un calvaire supplémentaire. Et là, on va enfermer le petit Louis XVII seul dans une cellule. Et ça va être le début, je dirais, l'apothéose de son calvaire. Alors ce qu'il faut voir aussi, c'est en deux mots, au moment lors de ce procès terrifiant où on a demandé au gamin de signer cet acte d'accusation contre sa mère, il y a un témoin de l'époque qui raconte avoir vu ce petit bonhomme assis sur un siège trop grand pour lui, avec ses petites jambes qui se balançaient en dessous, signé d'une main tremblante. D'ailleurs, avec une faute d'orthographe, hein. Il a rajouté un P au-dessus parce qu'il était vraisemblablement ivre au moment où il a signé. Donc, il y a quand même quelque chose de vraiment sale dans cette démarche. Quelque chose qui est une salissure sur laquelle nous reviendrons après pour parler des faux dauphins, pour parler aussi de Nandorf et pour parler de cette tendance qu'a eu l'opinion à ne pas accepter que l'enfant était mort au temple, et vous allez savoir pourquoi.
Jean-Louis Bachelet, vous racontez cette histoire dans un livre, Sang Royal, qui est publié aux éditions Ring. Dans quelles conditions, à quel âge meurt Louis XVII?
Alors Louis XVII est donné pour mort à l'âge de 10 ans, le 5 juin 1795. Il a été enfermé seul pendant 6 mois à la suite du départ du cordonnier Simon, et durant ces 6 mois, son état physique et mental vont se dégrader considérablement. J'ai eu la chance de consulter Emmanuel Bonneville-Baruchel, qui est psychologue clinicienne et universitaire et qui est spécialiste un petit peu de ces questions de séquestration d'enfants et de maltraitance, et qui m'a bien montré que les conditions dans lesquelles le petit Louis XVII a été enfermé provoquent une autistisation de l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant arrête de parler, une dégradation physique très rapide, et puis on a des cas où le quotient intellectuel descend jusqu'à 50, très rapidement.
Il ne se nourrit plus, ou on ne le nourrit plus?
On lui donne naturellement trois repas par jour, mais enfin c'est quoi? C'est un brouet avec quelques lentilles qui flottent. On lui donne une pitance absolument dégoûtante, sous prétexte d'égalité, là encore, parce que c'est aussi pour bien montrer qu'on n'a pas affaire à un fils de roi, mais qu'on le traite comme un prisonnier de droit commun.
Et oui. on l'alimente par un guichet, il est dans l'obscurité absolue, le soupirail de son cachot, en somme, est fermé, donc il n'a ni air frais, ni lumière du jour, il est totalement cloîtré, il se couche dans un tout petit berceau, bien trop petit pour lui, mais il est dévoré par la vermine, par les punaises.
On le laisse dans ses excréments.
Il est dans une solitude, il n'est plus capable de maintenir un minimum d'hygiène, personne ne lui parle, enfin, c'est abominable, et c'est ça qui est le plus tragique avec cet enfant, c'est qu'à la fois on sait qu'on a affaire à un enfant, mais on l'oublie, on le zappe en somme, parce que il est le fils du roi, il est le roi, que faire de lui?
On préfère s'en laver les mains,
d'ailleurs, pour voir un petit peu comment il est traité à ce moment-là, un mois avant sa mort, un commissaire du temple passe et dit à l'un des gardiens de l'enfant, à Gomain, lui dit ce gamin n'a pas une décade à vivre, avant quelques jours il sera crevé.
Alors justement, il est mort, Louis XVII, le 8 juin 1795. Que se passe-t-il au moment de sa mort? C'est une grande joie pour les révolutionnaires?
Là, de toute façon, ce qui s'est passé, vous savez, lorsque Louis XVI a été guillotiné, on s'attendait à une véritable clameur publique, des chants, des danses. Il y a eu, racontent les témoins de l'époque, une stupeur qui s'est installée dans Paris pendant plusieurs jours. Un silence total.
On a tué le roi.
Voilà, c'est-à-dire que on voulait guillotiner un symbole, on avait guillotiné un homme. Et finalement, quid de l'avenir?
Est-ce que ça continue, cette stupeur, quand on apprend dans les rues de Paris la mort de Louis XVII? Comment réagissent les Parisiens?
Lorsque, je ne sais pas Clémentine ce que tu en penses toi, mais il me semble que ça ne s'est pas passé de la même façon qu'avec Louis XVI. Le temps avait passé. Lorsqu'on a mis l'enfant en bière et qu'on a emmené ce cercueil jusqu'au cimetière Sainte-Marguerite, ce qui est certain, c'est qu'il y avait un très grand nombre de gens qui ont suivi le cortège. Les enfants se mettaient à genoux au passage du cercueil. Les messieurs se découvraient. Et il y avait là encore un silence qui, naturellement, pouvait s'expliquer aussi par le fait que si on exprimait quelque chose de l'ordre de d'un amour quelconque pour l'enfant ou pour la royauté en général, il y avait quand même encore un risque d'être malmené.
Bien sûr, même si on est alors en 1795 et donc la révolution est bien affermie.
Après la mort de Robespierre, donc, c'est
oui.
ça ? D'accord. Donc ça c'est
94, c'est une œuvre Thermidor, c'est l'année précédente.
Alors Louis XVII est mort et pourtant des rumeurs vont commencer à circuler dans la ville. À tout de suite.
RTL. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Dans la curiosité, on découvre la vie et la mort de Louis XVII, le dauphin, l'enfant du temple, avec nos invités, l'historienne Clémentine Portier-Kaltenbach et l'écrivain Jean-Louis Bachelet. La mort de Louis XVII et les rumeurs niant ce décès, est-ce qu'elles apparaissent très vite, Jean-Louis Bachelet ?
Oui, dans les jours qui suivent, les rumeurs apparaissent dans Paris, disant que l'enfant n'est pas mort. Là, de toute façon, je crois qu'il y a une explication métaphysique. Hein. Je crois que de toute façon que ça paraissait tellement impossible qu'on ait précipité la mort de cet enfant que dans l'inconscient collectif, il y avait un déni complet sur cette mort-là. Et puis, il y avait aussi le fait que certaines incohérences apparaissaient dans le parcours de l'enfant au temple. Rapport d'autopsie avait été signé par des médecins, mais des médecins qui étaient des révolutionnaires. Donc, est-ce que vraiment ce rapport d'autopsie était authentique ?
Il est enterré où, Louis XVII ?
Il était enterré au cimetière Sainte-Marguerite. Alors, il y avait plusieurs fosses communes à Paris. Hein. Il y avait les fosses communes, une fosse commune qui était du côté de Montrouge. Il y en avait une qui était du côté de Picpus. Hein. Et donc, ce sont des fosses communes qui ont servi naturellement de charnier pour toutes les têtes coupées de la Révolution. Et on a envoyé cet enfant dans une des fosses communes habituelles pour ce genre de choses. Et
ces rumeurs autour de niant le décès de Louis XVII, elles se renforcent, j'imagine, avec la Restauration, le retour de l'ordre royal.
La véritable apparition de ce qu'on a appelé les faux dauphins, c'est effectivement au moment de la première Restauration.
Donc on est quand
on est en 1814, et à partir de là, on a toute une série de manifestations de personnes qui viennent dire voilà, je suis Louis VII. On en a quelquefois deux en même temps dans la même ville. Alors au moment où il y en a trois à Paris, il y en a aussi aux États-Unis, il y en a en Angleterre.
Il y en a une centaine, je crois.
Il y en a une centaine en tout, et il y a même deux Louis XVII qui tiennent conférence au même moment dans Paris.
Il faudrait faire le radio-crochet des Louis XVII pour lire exactement.
Mais vous savez, plus
Thomas, vous n'êtes pas Louis XVII.
Non,
plus généralement, au-delà.
Et pas non plus le descendant des Simon, contrairement à ce que Sébastien, notre réalisateur, voulait laisser entendre tout à l'heure.
Mais plus généralement, même indépendamment du seul cas Louis XVII, c'est très souvent le cas dans toutes les grandes énigmes de l'histoire. On voudrait toujours que les choses ne se terminent mieux qu'elles ne se sont terminées. On voudrait que Jeanne d'Arc ait survécu. Il y a eu des fausses Jeanne d'Arc presque autant que des faux dauphins. On voudrait que la
comme
bête de Gévaudan...
Elvis Presley.
Exactement. Donc, il faudrait toujours... On voudrait que la famille impériale russe ait survécu, si vous voulez. Donc c'est plus fort que tout. Et là, ça a été un tel choc quand même, une telle stupeur, cette révolution, qu'il n'est pas possible. Donc ça s'arrêterait là. Comment ça s'arrêterait là ? Donc effectivement, on voit arriver toute une galerie de faux dauphins.
Alors, si on les présentait, ces faux dauphins, il y a par exemple Jean-Marie Hervago. Qui est-il ?
Alors, c'est un vagabond.
On a quelle époque ?
Beaucoup. On est en 1802.
Ouais.
Il y a beaucoup de faux dauphins qui sont d'origine totalement incertaine, voire impossible à détecter. Et Hervago fait partie de ces vagabonds qu'on... Alors, ce qui est incroyable, c'est que beaucoup n'ont rigoureusement aucune ressemblance avec le petit Louis XVII.
Mais ils réussissent à convaincre du monde, quand même, par exemple cet Hervago.
Alors, ils réussissent à convaincre un certain nombre de gens, y compris des gens qui ont fait partie de la cour de Louis XVI. Bon, qui commencent à être un peu vieillissants sans doute aussi un petit peu myope, parce que pour arriver à confondre un Richemont qui est brun aux yeux noirs avec le petit dauphin qui était blond aux yeux bleus, il fallait, enfin blond vénitien aux yeux bleus, il faut quand même avoir vraiment perdu la vue.
Mais Hervago, par exemple, il va il va...
Ah oui, parce que là, vous avez cité Richemont,
oui,
donc c'en est un autre.
Oui, c'en est un autre,
oui. Oui, alors le Hervago, il va effectivement rassembler autour de lui un certain nombre de fans jusqu'à ce qu'il soit convaincu d'escroquerie, qu'il soit enfermé à Bicêtre et qu'il y meure.
Il y meure, oui.
Complètement. Donc il a, mais il a tenu jusqu'au bout à affirmer qu'il était Louis XVII. D'ailleurs, il a tenu un discours semblable à ses successeurs. Un discours qui consiste à dire, ben, si je ne suis pas Louis XVII, dites-moi qui je suis. C'est vraiment.
La charge de la preuve est à vous.
C'est implacable, ça.
Ah ben, ce qui est très étonnant, c'est qu'on a une époque, en même temps, je crois que le mysticisme post-révolutionnaire a s'est comporté un petit peu vraiment comme une forme d'explosion de ce désir de transcendance qui avait été éradiqué à la Révolution, quand on trouve chez Chateaubriand.
Mais Jean-Louis Bachelet, il y a une question basique qu'on a dû poser à tous ces mythomanes. Par exemple, ce Richemont dont vous parliez, vous avez cité son nom très rapidement. Comment dit-il être sorti, comment est-il sorti du temple? C'est quoi son explication? Je me suis évadé, comment?
Voilà. C'est donc souvent dans un panier, après avoir absorbé de l'opium, et alors après le panier se balade, part en Angleterre, voilà. Enfin, ils ont toujours
c'est ça, il y a en fait une communauté d'arguments entre les faux dauphins qui est savoureuse. Effectivement, ils ont été embarqués dans un panier de linge sale, descendus du temple, substitués à quelqu'un qui leur ressemblait. Certains disent qu'ils sont descendus dans un cheval en carton. En tout cas, tous pratiquement racontent la même histoire. Et il se trouve que, par bonheur ou par malheur, je ne sais pas, un roman oublié à la Restauration a refait surface, qui est un roman d'un certain Regnault Varin, publié en 1800, et qui raconte exactement le même genre de scénario, à savoir la sortie de la prison du temple via un panier, un cheval en carton, avec l'aide de la femme du cordonnier Simon.
Et dans un instant, on va vous présenter le meilleur des sosies, le meilleur des mythomanes, le meilleur des sosies de Louis XVII. A tout de suite dans La Curiosité.
Merci Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Après la mort du petit Louis XVII, de nombreux faux dauphins vont apparaître et on rencontre ces mythomanes et quelques-uns de ces sosies avec nos deux invités, l'écrivain Jean-Louis Bachelet, l'historienne Clémentine Portier-Kaltenbach. Parmi ces sosies, ou en tout cas ces mythomanes, il y en a un qui est extrêmement célèbre, c'est le fameux Carl Wilhelm Naundorff. Pourquoi il est célèbre? Qu'est-ce qu'il va inventer comme histoire?
Alors,
pour convaincre quelques personnages.
Lorsque Naundorff arrive à Paris en 1833,
qui est-il?
C'est un Prussien d'origine incertaine. On ne sait toujours pas vraiment d'où il vient.
Un horloger.
Un horloger prussien.
Spandau.
Voilà.
Oui.
Qui s'est déclaré être Louis XVII à Berlin devant un certain Lecoq, qui était directeur de la police. Avec un peu d'opiniâtreté, il a réussi à faire relayer cette information dans un journal allemand. Et puis, des Français sont tombés sur ce journal et ont fait venir le fameux Naundorff à Paris. Et il a apporté, là, c'était vraiment un coup de tonnerre, il a apporté une série d'arguments et de preuves à vous en faire tomber les bras.
C'est-à-dire des détails sur quoi? Sur la détention?
Sur la détention au temple, sur l'enfance du petit dauphin, sur des détails mais absolument assourdissants.
Un détail, par exemple, à propos d'un petit habit que le dauphin n'aurait porté qu'une fois, qu'à une seule occasion.
Alors voilà, donc il se trouve que la nounou de Louis XVII, du petit Louis XVII, Madame de Rambeau, a entendu parler de ce Naundorff. Donc elle veut à tout prix le rencontrer et elle décide de le mettre à l'épreuve. Donc elle va apporter avec elle un petit vêtement que l'enfant a porté bien avant le temple, et elle va lui demander où il a porté ce vêtement. Elle arrive devant lui, déjà elle est très troublée par la ressemblance.
Elle se ressemble beaucoup.
Elle ne l'a pas vu depuis 41 ans, hein, je précise quand même, hein, elle est troublée par la ressemblance. Oui.
Mais oui, c'est ça.
Jean-Louis, là tu as les yeux de l'amour.
On est en 1833,
on est en 33.
Et donc le dauphin est censé être mort en 1795.
Voilà. Et puis alors, d'accord. Tu oublies de préciser aussi une chose, mon cher ami, c'est que tout de même, le gars en question, il l'a fait de la prison, il réclame de l'argent toutes les 5 minutes, il arrive à Paris, et alors Madame de Rambeau, elle lui pose un certain nombre de questions. Oui, bon, elle ne l'a pas vu donc, depuis 41 ans. Et alors, elle croit tout reconnaître. Là, elle voit.
Oui,
mais le petit habit, il va le reconnaître.
Voilà, elle va lui dire, vous souvenez-vous d'avoir porté cet habit aux Tuileries? Et il dit, oui, je portais cet habit, mais ce n'était pas aux Tuileries, c'était à Versailles. Et il me serrait trop, et c'est pourquoi vous me l'avez enlevé. Et là, le détail est tellement extraordinaire que Madame de Brambourg tombe à genoux.
Ah, parce qu'elle essaye de le piéger.
Eh oui.
En lui disant qu'il rit
alors qu'il passe un test.
Et à partir de là, ça a été une succession de détails du même genre qui ont rassemblé un très grand nombre d'anciens de la cour de Louis XVI autour de Nandorf.
Il était blond, Nandorf?
Alors, il n'était pas blond. Donc, lorsqu'on commençait à pointer dans l'entourage parisien de Nandorf différentes plaintes relatives à ses besoins systématiques d'argent, à certaines preuves qui étaient censées être dissimulées, d'abord à Genève, puis ensuite à Berlin, on se demande pourquoi. À un certain moment... un soupçon a pesé sur lui.
Oui, parce qu'il prétendait constamment qu'il allait apporter des preuves éclatantes de son identité. Et ce qu'il faut voir, il faut rappeler le contexte quand même, parce qu'il arrive en France, on est sous la monarchie de Juillet, c'est 1833. Donc qui est au pouvoir? C'est Louis-Philippe, roi des Français. Et qui est Louis-Philippe? Il est le fils de Philippe Égalité qui a voté la mort du roi. Donc dans le camp des légitimistes, et à commencer par ce monsieur Albouis qui le fait venir en France, qui lui envoie de l'argent, 1000 euros... 4000 francs, 1800 francs. Puis c'est un tapeur professionnel, le petit père Nandorf. Hein. Et donc, pour les légitimistes, on appelle de ses voeux naturellement le descendant de Louis XVI.
On crée ce mythomane finalement là.
C'est quand même largement créé tout seul, mais probablement parce que moi, pour autant que je sache, mais là encore, je suis pas du tout une spécialiste de la question, beaucoup moins que Jean-Louis qui s'est beaucoup intéressé à ce dossier. On pense que Nandorf était probablement un déserteur prussien. Il a été arrêté pour émission de fausse monnaie et ne voulant pas s'identifier comme déserteur, eh bien, il est allé choper cette histoire. Voilà, je suis le fils du roi Louis XVI. Et ma sœur, oui.
Mais je...
À votre sœur aussi.
Je ne sais pas ce qu'elle fait, votre sœur, mais bon, on l'a reçue il n'y a pas longtemps.
Mais si elle se fait pas passer pour notre
sœur. Pour parler des championnes, on l'a reçue, hein, votre sœur. D'ailleurs, on pourra vous réécouter au moment des vacances de Noël. Jean-Louis Bachelet, est-ce que ça veut dire que ce Nandorf, il est le fruit d'une machination contre Louis-Philippe, si je pousse un peu le raisonnement de Clémentine?
Non, moi, je ne pense
vous pas. Vous diriez pas jusque-là.
Pas d'une machination.
Non, je crois simplement que c'était la personne rêvée pour faire un pied de nez à Louis-Philippe, de toute façon, qui incarnait quand même... Alors, il faut voir que pour les légitimistes de l'époque, enfin, pour les vrais monarchistes de l'époque, Louis-Philippe, et là, Clémentine a raison de le souligner, Louis-Philippe au pouvoir, c'est une ignominie. C'est le fils de celui qui a voté la mort du roi. Donc, il n'est pas possible, pour un monarchiste pur et dur, d'accepter cette situation. Et Nandorf arrive à point nommé, si je puis dire, pour dire, voilà, ben, il ne peut pas être roi, puisque Louis XVII est vivant.
Alors, et le voilà. Alors nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir comment il va s'en sortir jusqu'au bout. Comment il raconte son évasion de la prison du Temple?
Un peu comme les autres, je vais laisser peut-être Jean-Louis
le panier,
nous raconter.
Mais en tout cas,
il y a une histoire de drogue et d'échange avec un enfant muet.
La même rengaine qu'on trouve dans le roman Le Cimetière de la Madeleine, en 1800. C'est-à-dire
que tous la même source.
C'est une banalité.
Ils ont puisé tous dans cette même source. C'est assez d'ailleurs effarant de voir que ce roman publié en 1800 et que Joséphine de Beauharnais avait lu, qui était quand même un roman assez connu, et pu être aussi vite oublié 30 ans après, au point que lorsque Nandorf raconte un petit peu son évasion en pompant, pratiquement en faisant des copier-coller de ce qui est raconté dans le roman, les gens le croient.
Oui, mais effectivement, c'est un grand baratineur. D'ailleurs, il a menti sur sa date de naissance. On ne sait pas s'il est né en 73, en 75. Est-ce qu'il est né à Lille? Est-ce qu'il est né à Weimar? Enfin, il ne cesse de mentir et de se contredire. Et alors, il y a autre chose, je pense, qui est important aussi, c'est que les souvenirs de la duchesse d'Angoulême, c'est-à-dire la seule survivante des enfants de Louis XVI et de Marie-Antoinette, qui a été échangée contre des prisonniers, donc elle est la seule à avoir survécu, elle a écrit ses souvenirs de la prison du Temple et ses souvenirs ont été publiés en allemand dès 1817, de sorte que le petit père Nandorf qui confie dans sa prison là pour émission de fausse monnaie, il a eu tout loisir de lire ça dans les détails. Et en effet, quand il rencontre cette madame à moitié gaga, madame de Rambaud, sa berceuse qu'il n'a pas vue depuis 41 ans et qui lui donne des détails, elle se dit mais bon sang, mais c'est bien lui. Sûr.
Merci beaucoup à vous deux, merci Jean-Louis Bachelet. Je rappelle que vous publiez cette histoire passionnante sur Louis XVII, Sang royal, la vérité sur la plus grande énigme de l'histoire de France. C'est aux éditions Rigne et puis Clémentine, on vous a reçu pour un très beau livre. C'est championne aux éditions, je ne me rappelle plus de la...
Artaud.
Aux éditions Artaud. C'est la fin de cette curiosité. Vous
merci
pouvez
à tous les deux.
Nous réécouter sur RTL et réécouter cette émission qui était formidable. On se retrouve demain. Non, pas
alors,
du tout.
On va se retrouver samedi. Samedi et dimanche, c'est de 14h à 15h pour les meilleurs moments de la curiosité. Et puis lundi, au programme, on a l'histoire des Champs-Élysées.
L'histoire de la coiffure.
Et un portrait d'Albert Einstein. C'est varié,
riche.
Comme tous les soirs.
Très très belle fin de soirée à vous. Portez-vous bien. Tout de suite, vous retrouvez Agnès Bonfillon et Christophe Paco. C'est RTL. Grand soir. Salut les amis.
Salut à tous. RTL, il est 22h.